Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro d'En Spectateur. Aujourd'hui, je reçois le collectif Yokle avec Nina Hayashi et Victor Hennison pour la présentation de leur nouveau spectacle, Bittersweet, librement inspiré de l'échange de Claudel, qui se jouera les 28, 29 et 30 avril en Cantor. Bonjour à tous.
Salut.
Salut.
Alors, tout d'abord, ma première question, donc, d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord le collectif Yokle et que veut dire Yokle ?
Alors, le collectif, c'est un collectif tout jeune, qui a à peine un an, en fait, et qui est né juste après une mise en scène qu'on a fait avec Nina de la Furie des Nantis de Bond, et qu'on avait joué en Italie d'abord, qu'on a créé en Italie, puis qu'on a repris au Théâtre de la Cité Internationale et aux Amandiers de Nanterre en juin dernier. Et voilà, de là est juste venu le désir de continuer ensemble et de former quelque chose après notre prépa littéraire, puisqu'on était pour la grande majorité en prépa littéraire. Le collectif donc, voilà, a été fondé en septembre et il compte aujourd'hui 4 créations, dont Bittersweet, mais aussi un spectacle de rue, Firmin Gauthier, qui est en tournée actuellement, qui a été présenté à Contresens à Paris. Et 2 projets en cours, Les Enivrés de Viri Paef et puis Mise en scène de guerre de Lars Noren. Voilà, on est, oui, donc j'ai 24 dans le collectif et pour Bittersweet, on est 8 mobilisés avec 4 acteurs et puis une équipe de 4 personnes derrière, Nina et moi en mise en scène, une costumière et une scénographe. Voilà, le nom en fait ça veut rien dire, ça veut rien dire de particulier, c'est disons une blague qui a duré pendant assez longtemps et la sonorité nous plaisait mais ça va pas plus loin que ça.
Voilà. D'accord, donc pas d'acronyme.
Pas de sens.
Non voilà, c'est pas du tout un acronyme non.
D'accord. Et donc du coup oui, donc t'as commencé à répondre à ma prochaine question, mais du coup vous dans Bittersweet, comment vous êtes répartis les rôles dans la mise en scène ?
Bah, Victor, il a plus fait la mise en scène en amont, enfin pas que, mais c'est quand même toi qui as pensé toute la question de l'adaptation. Et moi, j'ai plus travaillé sur de la direction d'acteur au plateau. Moi, j'ai travaillé que au plateau, ouais, en fait, et lui, il a plus fait de la scénographie, pensé à la question de l'adaptation, du texte, tout ça.
C'est-à-dire qu'en fait, Nina, elle est là seulement au plateau et elle fait plein de directions d'acteurs, masse de directions, etc. Et moi, disons... Enfin, il n'y a pas des rôles totalement définis, forcément, ça bouge, etc. Mais moi, j'étais plus du côté vraiment, oui, mise en scène, peut-être un peu plus côté esthétique, parce que ouais, je touche un peu à la scéno, j'ai fait la lumière aussi. Mais bon, après, voilà, Nina fait aussi de la mise en scène et je fais aussi de la direction d'acteur, quoi. C'est tous les deux, mais c'est comme ça qu'on se répartit le mieux les tâches, quoi.
Voilà. D'accord, donc du coup, donc deux metteurs en scène, direction d'acteur, une costumière, et après, donc, combien d'acteurs ?
Il y a quatre acteurs.
Ouais. Deux garçons, deux filles.
Voilà.
On va dire les noms, ils seront fiers d'un peu.
Alors il y a Icar Bamba, Julia Dessia, Adrien Madinier et Pauline Olmedo en acteur, Laureline Morer en scénographe et Noé Kilichini en costumière.
D'accord. Voilà. Très bien. Super. Et alors, donc, j'avais oublié de dire dans la présentation, mais vous avez gagné le prix de la mise en scène au festival Rideau Rouge.
C'est ça,
ouais. Et les prix d'interprétation féminin et masculin.
Exactement, pour Icar et Julia, ouais, au festival Rideau Rouge, qui est notre première date, en fait, le 12 mars dernier.
Et, c'est un festival étudiant organisé par Sciences Po.
D'accord.
Et voilà, il y avait plusieurs troupes et on décerne des prix.
Voilà, c'est ça.
Donc, du coup, vous jouez déjà depuis mars.
Alors ouais, en fait, on a fait notre première le 12 mars, donc à Rideau Rouge. Après, on a rejoué à Rennes le 26 mars à la DEC. Et on a fait 2 dates à Ménilmontant fin mars, le 31 mars et 1er avril. Et Cantor, c'est nos dernières dates de saison. Voilà, c'est le grand final de saison.
Projet définitif ou work in progress ?
Ah, bonne question. on ne sait pas trop nous-mêmes. Bon, il y a forcément une part de work in progress parce que... Comme on se dit souvent, en fait, on a commencé à travailler le projet, enfin du moins à faire du plateau à partir de novembre.
C'est clairement un work in progress, je pense.
Du plateau depuis novembre, en fait. Mais bon, même si on avait un peu commencé à travailler l'adaptation dès l'été, quoi. Mais bon, voilà, en 5 mois de travail, ça reste quand même voilà, assez court. Donc, il y a forcément une part de work in progress, c'est sûr.
Oui, puis quand on voit ce qu'on a fait à Rideau Rouge et ce qu'on a fait à Ménilmontant, ça a quand même évolué. Je pense que ça évoluera encore.
Voilà, c'est destiné à évoluer. Donc, pour l'instant, voilà, on sait pas trop ce qu'on fait. Ce qu'on sait, c'est qu'on voilà, on cherche et qu'on continue toujours un peu à modifier des choses. Et que voilà, même le spectacle en Cantor sera encore un peu différent de celui de Ménilmontant, a priori.
D'accord, donc là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet avec tout d'abord ce qui est le plus interpellant, le titre, Bittersweet. Alors, quelle est son origine, quelle est sa, Alors, quelle est sa signification?
C'est assez simple, en fait. C'est assez
simple. Oui, bittersweet, c'est parce qu'en fait, on a centré la pièce sur le personnage de Marthe dans l'échange de Claudel. Et dans l'échange, Thomas Pollock l'appelle souvent bittersweet. Et bon, on l'appelle aussi Douce Amère, mais on s'est dit que Douce Amère, c'était pas très joli. Oui, et du coup, voilà, comme c'est le personnage sur lequel on a centré, en fait, c'est elle qui perçoit toute l'histoire à partir d'elle. Du coup, ben voilà, on a appelé le spectacle bittersweet.
D'accord, bittersweet.
Voilà, tout simple.
Mmh. Et donc, du coup, est-ce que, parce que du coup, vous êtes partie de l'échange de Claudel. Mmh. Du coup, est-ce que vous pouvez résumer un peu le plot de la pièce, de ce que vous en avez fait?
De ce qu'on en a fait ouais, en fait. Bon, ça, ce serait assez, enfin, c'est un peu long à expliquer, mais en gros, ce qu'on a fait, on a fait au moins deux choses. La première chose, c'est qu'on voulait, comment dire, un peu déstructurer un peu la langue. Ça fait un peu gros dit comme ça, mais un peu retravailler la langue, trouver un peu notre manière de la travailler, etc. Voilà, c'est un peu abstrait, mais ça, c'était la première idée. Donc, c'est-à-dire, du coup, faire une autre écriture, c'est-à-dire, le texte de Claudel n'est pas du tout présent. Enfin, il y a quelques petites citations, mais n'est pas du tout présent dans le spectacle. On a tout réécrit et dans la grande majorité au plateau, parce que ça part d'improvisation, voilà, d'aller-retour entre la table et le plateau tout le temps. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est plus une question d'univers, disons. En gros, voilà, la pièce de Claudel, à la base, c'est une pièce donc, qui est fin 19e, enfin la première version, puisqu'on se base sur la première version de 1894. Et donc, c'est dans un univers industriel, en fait, et, et Thomas est un industriel. Voilà, et nous, c'était pas quelque chose qui nous parlait forcément, qu'on avait forcément envie de traiter, donc en fait, on a cherché un autre univers, quelque chose qui, en fait, quelque chose qui pourrait en même temps être similaire, peut-être qui parlerait plus maintenant, actuellement, je veux dire. Donc en fait, un univers où à la fois on peut, voilà, gagner beaucoup d'argent très vite, etc. Et bon, là, en fait, voilà, on a choisi l'univers du narcotrafic. C'est venu comme ça, et puis, et voilà, et en fait, ça, cette idée nous a bien plu, et on l'a travaillé comme ça, et donc on. Et donc voilà, ça se passe dans une espèce de labo, un peu type Breaking Bad. Voilà, donc là, en l'occurrence, c'est vraiment plus la même chose, quoi. Mais voilà, mais de toute manière, enfin, j'en profite pour préciser d'ailleurs que y a pas, l'idée, c'était pas du tout de faire une pièce pour les gens qui connaissent bien l'échange. Et alors, attention, toi, t'as pas vu l'échange, du coup, viens pas. Enfin, au contraire, non. Je veux dire.
En fait, au début, on voulait quasi partir de l'échange de Claudel, faire une adaptation. Et au fur et à mesure du travail, on s'en est complètement éloigné, quoi. Enfin, vraiment, ça a vraiment plus grand rapport avec Claudel, quoi.
C'est pour ça que c'est vraiment une libre inspiration, quoi. Et c'est vraiment, enfin, je veux dire, ne pas te connaître Claudel, on s'en fout, quoi. Vraiment, on s'en fout. Il n'y a aucun souci, quoi. Et c'est pour ça que voilà, c'est pas du tout une adaptation du genre, voilà, on va prendre tout le texte, on va tout recaler bien, pareil, etc. Non, non, c'est vraiment librement inspiré. Donc, on prend les motifs. En gros, ce qui reste, voilà, c'est l'idée, quoi. L'idée, l'histoire originale et les personnages restent.
En fait, ce qui reste, c'est juste la question de la. On a gardé juste ce thème-là, de la marchandisation d'un être humain. C'est-à-dire que c'est une femme qui se fait acheter par un homme très riche. Voilà, c'est tout.
Voilà.
D'accord.
Et voilà.
Ouais.
Dans le milieu du narcotrafic.
Dans le milieu du narcotrafic.
Exactement.
Et voilà.
Et donc, Claudel revisité et.
Ouais.
Et un peu chamboulé, non?
Oui,
ah oui, oui, clairement.
Oui, on dit ça. Enfin, on fait pas tout ça dans une. Enfin, l'idée, c'était pas de subvertir le vieux Claudel ou je sais pas. Enfin, peut-être qu'on l'a fait du coup inconsciemment, mais c'était pas le. Enfin, l'idée de base vraiment, quoi. Mmh. C'était juste, voilà, de prendre nous ce qui nous intéressait le plus et voilà de torturer un peu et de s'amuser avec, quoi. Mais oui, après, bien sûr, par rapport effectivement à la langue assez lyrique, etc. de Claudel.
Non, ça existe plus.
Ça existe
en fait, on a juste
plus,
recherché, quoi. On a exploré, on s'est amusé, mais on n'a pas. Enfin. On ne s'est pas dit qu'on allait monter vraiment l'échange de Claudel, quoi.
Voilà, c'est pour ça qu'il y a vraiment.
On a juste pris
peu,
des thèmes et on les a développés un peu à notre façon, avec ce que tout le monde a apporté, quoi, dans la troupe. Voilà.
Ouais, ça, sachant que du coup, c'est pas effectivement vu qu'on fait beaucoup d'impro et qu'on parle beaucoup, voilà, on prend des bouts de texte, on les travaille à la table, etc. Il y a énormément de propositions des acteurs, quoi.
C'est pas, puis tout le monde écrit les textes.
Exactement.
Il n'y a pas, par exemple, juste nous qui écrivons les textes et les acteurs doivent en écrire aussi. En fait, tout le monde participe un peu à tout.
Voilà, ouais.
Donc, c'est le principe d'un collectif.
On dit mise en scène, mais voilà, il y a vraiment le côté collectif où voilà, chacun participe, chaque acteur propose des trucs, écrit ses textes, des trucs qui lui parlent le plus, etc. Et à la fin, on arrive à une espèce de manne qu'on retravaille après tous ensemble en fonction de qui a écrit quoi. Et on essaie de s'harmoniser autour de ça, quoi. Donc, il y a vraiment, vraiment un principe collectif, quoi. C'est pas du tout une mise en scène très grosse et très on vous dit quoi faire, quoi.
Je voulais savoir d'un point de vue esthétique, comment vous avez travaillé, parce que du coup, tu as cité Breaking Bad il n'y a pas longtemps.
Ouais, ouais.
Et comment, voilà, quel univers vous avez essayé de créer à peu près?
Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on s'inspire beaucoup du cinéma, ça c'est clair. C'est des influences qu'on revendique et même pour le travail, voilà, c'est des choses qu'on cite souvent. En fait, on nous arrive beaucoup plus de citer des influences cinématographiques, à la fois en termes de jeu, à la fois en termes esthétiques. Mais pour parler seulement en termes esthétiques, disons que. toujours un peu dur à résumer, mais il y a une espèce d'atmosphère un peu pop glauque, un peu dans l'optique en fait de ce que fait, enfin c'est assez spécifique, mais dans ce que fait un peu de Benoît Deby, qui est un chef op, qui a photographié Enter the Void ou Spring Breakers, des choses comme ça, assez coloré, mais en même temps assez flippant, quoi. Pas du pop chic, quoi. Une espèce de pop, mais assez sombre. Enfin, c'est un peu paradoxal, mais oui, c'est un peu paradoxal. Et quelque chose en fait d'assez coloré, mais en même temps d'assez inquiétant, quoi. Il y a un côté un peu assez bizarre, c'est assez on a l'impression que c'est assez gentil, etc. Puis en même temps, il y a un truc assez genre malaisant derrière. Voilà, pour les influences esthétiques, ouais, beaucoup de ça, pas mal de cinéma américain en fait, quand même dans l'ensemble. Il y a quelque chose, enfin, pour la petite anecdote, Claudel justement, il est aux États-Unis quand il écrit L'Échange, et voilà, ça, la pièce se passe aux États-Unis à la base, donc ça, du coup, c'est un truc qu'on a tiré de Claudel, et du coup, voilà, simplement, on s'inspire de ça. C'est assez hanté par tout le cinéma américain, mais même tous les, dans le traitement des personnages, des choses assez proche, enfin bon voilà, c'est un maître, mais proche de Scorsese ou des choses comme ça. Enfin voilà, pour les influences que je vois.
David Lynch.
Oui, Lynch aussi, ouais. Lynch
on en parle souvent, parce qu'en fait, après, on a transformé la pièce, et en fait, toute l'histoire, elle est perçue dans la tête de Bittersweet, de Marthe. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'on se retrouve souvent à parler de films comme Mulholland Drive ou tout ça, parce qu'en fait, ça, clairement, ça nous a inspirés. En fait, on se demandait comment ce qui fait, par exemple, le cinéma sur la question de tout, enfin, que ça se passe dans la tête du personnage, mais comment au théâtre ça peut être montré, parce que c'est vraiment différent. Et du coup, on a fait un peu une exploration là-dessus, quoi.
Oui, c'est ça, parce qu'il faut savoir, c'est que du coup, avec l'univers de la drogue, ce qu'on fait, c'est que le temps de la pièce, c'est après que Marthe, le personnage de Marthe, qui s'appelle voilà, plus Marthe là, mais a été vendu. En fait, ça se passe dans ce temps-là, après l'échange. Et il y a un espèce de délire qui se crée autour de la drogue, qui fait qu'effectivement, ça peut rappeler des espèces de psychoses qu'on peut voir chez Lynch ou des choses comme ça. Et on essaye de faire un vrai travail sur l'idée voilà, de psychose, de comment tu pètes un câble, etc. Et comment finalement l'histoire se déstructure, etc. Avec juste des apparitions, des illuminations, des personnages qui l'envahissent et qui l'oppressent. De sorte qu'à la fin, elle explose, des choses comme ça.
Et du coup, c'est pas un risque aussi ?
Si, c'est carrément un risque.
Mais clairement, on s'est confronté au risque parce que au début, quand tu veux faire des scènes un peu cinématographiques au théâtre, parfois ça en voit pas beaucoup, tu vois. Comme on s'est beaucoup inspiré du cinéma, parfois on a été un peu dans le dur, quoi, parce qu'on se rendait compte que, prendre des choses qui se font très bien au cinéma et les mettre au théâtre, c'est parfois très compliqué. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, ça a demandé toujours un espèce de retravail constant pour arriver à une forme qui soit vraiment théâtrale, quoi.
Oui, voilà. Bien sûr. Puis même au niveau de la structure, la structure cinématographique, elle a beaucoup. Simplement, le fait qu'on puisse monter des plans, ça libère des milliards de choses, alors qu'au théâtre, forcément, c'est continu. Donc, des fois, en termes de structure, on est gêné pour garder l'énergie, etc. Mais du coup, c'est passionnant parce que c'est tout un travail, du coup, pour essayer de transposer des choses et de voir comment théâtralement on peut s'approprier des choses qui, a priori, sont seulement cinématographiques. Mais ouais, c'est galère. Mais c'est cool.
Et du coup, vous n'avez pas passé le pas de... Vous faites que du plateau, que de la scène. Il n'y a pas de vidéo, pas de...
Alors non, il n'y a pas
de
vidéo.
Pas de vidéo, non.
Pas de vidéo. Ouais. En fait, on ne s'est jamais trop posé la question. Moi, personnellement, ça me fait un peu chier parce que je trouve que... Enfin, je trouve que non, vraiment, je trouve que la vidéo, c'est bien au théâtre. C'est juste qu'en ce moment, ça m'emmerde parce que je trouve que tout le monde le fait... je sais pas.
Non, mais c'est pas le problème, c'est juste que pour faire de la vidéo, il faut vraiment utiliser l'objet technique comme un moyen d'explorer des trucs, quoi. Pas juste un objet technique qui parle à lui-même, quoi. Et on tombe, de toute façon, on n'est pas parti là-dessus, ça nous a pas trop intéressé.
Et puis effectivement, après, il y a même tout simplement une question de moyens. Enfin, voilà, pour la vidéo, soit tu fais un vieux truc avec un iPhone et c'est un peu chiant, quoi, mais soit sinon ça demande quand même un peu de moyens si tu veux faire un truc un peu sympa, etc. Et nous, du coup, on a préféré se concentrer sur simplement des choses de lumière, de costumes, ou des assez classiques, finalement.
Très bien. Mais puisqu'on parle de théâtre et qu'on est dans une émission de spectateurs, une pièce que vous avez vue récemment, qui vous a plu ou foncièrement déplu ?
Récemment, si, il y avait le Pomera, là, ça ira, qui était super.
Ouais.
C'était où ?
Nous, on l'a vu au TNP.
Ouais, mais c'était à Paris aussi.
Ouais, c'était vraiment super bien. Mais après, ça m'a pas transcendé, je trouve ça vraiment bien. Mais moi, la dernière pièce que j'ai vue, les deux dernières pièces que j'ai vues, après, c'est perso, mais que j'ai vraiment adoré, c'est un truc à l'amour, c'est un squat à Bagnolet. C'était une pièce des étudiants du 19e qui était géniale. Ça s'appelait Super Discount, c'était incroyable. Et donc pas grand monde a vu ce spectacle, mais c'était vraiment génial. Et le deuxième truc qui était plus, disons, institutionnel, c'était, là on va être d'accord, c'était Thieste, ouais. de Simon Stone, mais ça fait un moment, hein, ça fait presque un an, donc c'est loin.
Ouais, ça fait un an.
Ça fait un an en fait, c'était en avril justement, et c'était aux Amandiers. Et c'était un truc mais de fou. Et d'autant plus que ça nous parle vachement, nous, parce que justement, c'est une adaptation de Thieste, quoi, de Sénèque, je crois que je dis pas de conneries. Mm-hmm. Il me semble que c'est Sénèque, enfin, peut-être j'ai dit une connerie, mais. Et en fait, justement, le gars déstructure totalement la pièce. Il en fait un truc, mais délirant. Hyper fort, où genre voilà, il mélange toutes les parties, il fait le.
En fait, il fait un travail chronologique qui est fou parce que voilà, il inverse toute la chronologie de Thieste. Et en fait, c'est qu'à la fin que tu comprends ce qui se passe et en même temps, ça va hyper vite.
C'est la scène du milieu, fou. En fait, la fameuse scène du milieu où le gars bouffe ses enfants. Là. Mmh. Et bien en fait, il la met tout à la fin. Ce qui fait que t'as le début où genre tu dis ok, c'est une pièce, bon c'est un peu bizarre, etc. Et après, le mec te coupe la moitié de la pièce, tu te retrouves à la fin où t'as le gars qui est juste dans un fauteuil roulant en fait, en train de regarder un putain de documentaire animalier et de déprimer à fond, et tu comprends pas du tout, et en fait t'as cette espèce de truc très très bizarre, et en fait il te fait revenir, et à la fin, t'as le truc qui explose avec cette scène où le gars mange des espèces de spaghettis hyper épaisses, c'est vraiment dégueulasse.
Mais en fait, on comprend que c'est les boyaux de ses enfants.
Et tu comprends que c'est les trucs de ses enfants, et c'est horrible. Et le gars, en fait, te fait finir la pièce là-dessus avec une musique, espèce de hard rock qui grimpe, et il arrête pas de faire descendre un espèce de rideau, mais un rideau métallique, comme ça, en faisant descendre, remonter, un espèce de tableau de plus en plus horrible.
Ouais,
tu sors, t'es pas bien, mais.
En fait, c'est assez sidérant. Enfin, c'était assez fou. Quoi.
Mais c'est pas juste violent pour. Voilà, c'est pas de la violence gratos ou comme ça, c'est vraiment genre ça te. Ça te prend au trip, jeu de mots, mais ouais, c'était vraiment super, c'était vraiment excellent. Ouais.
Eh bien, on va tenter l'expérience. Donc, je rappelle Bittersweet qui se jouera les 28, 29 et 30 avril au Théâtre Cantor. Mm-hmm. Je remercie mes deux invités, Nina Ayashi et Victor Hennison.
Merci à toi.
En attendant, n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra et au ballet. Bref, n'oubliez pas de vivre en spectateur.